Salut tout le monde, bienvenue à... j'allais dire bienvenue à tout le monde en parle. Bienvenue à... bienvenue à Angle Mort. C'est parce que ce que je vous parlais aujourd'hui, ça part du dernier Tout le monde en parle qui a passé dimanche dernier. Et puis, même si vous ne l'avez pas écouté, c'est zéro important. C'est juste que mon démarrage, ça part de là. Il y a eu différents invités. D'abord, c'est une très, très bonne émission qui prouve presque malheureusement un des points que je vous ai parlé la semaine passée. J'ai fait deux angles morts concernant Danny Turcotte parce que quand j'ai réagi à l'article de Hugo Dumas de La Presse, je ne savais pas qu'une journée ou deux plus tard, il allait littéralement démissionner. Et j'avais déjà parlé de ça à la radio il y a quelques semaines. Où est-ce que moi, je disais que Danny Turcotte ne servait plus à rien, puis que j'attribuais ça au changement de contexte, déjà. Et puis, voilà, finalement, c'est tout ça aurait eu raison, et puis je ne le blâme pas pantoute, bien au contraire. Et on a vu, donc, ce dimanche, pour ceux qui l'ont écouté, 21 février, on a vu un Tout le monde en parle très solide, avec Guy, qui était très solide, 2 heures en direct, avec des invités très différents. Ça passe de Cœur de pirate à Farah Alibé, la fille qui fait partie de l'équipe qui a fait atterrir le petit rover là, sur la planète Mars. Peterson, puis les deux autres qui jouent, réalisent et ont écrit le film La déesse des mouches à feu. Très féminin, puis très articulé. Franchement, une émission qui est très, très bonne. Très, très, très bonne. Et puis, donc, ça amène le triste constat qu'effectivement, même sans Danny Turcotte, l'émission est tout aussi bonne. C'est à se demander si c'est pas meilleur, parce que peut-être que Guy s'est dit, calvaire, tu sais, des fois, en radio, on appelle ça des béquilles. C'est-à-dire qu'on a le réflexe de dire, on va dire en radio, dans toute d'envie, il y a une béquille. C'est-à-dire que l'exemple dans la radio, c'est, mettons, un show du matin, mais là, c'est comme, ça prend un animateur, la fille au hors spectacle, le gars du sport. OK, c'est qui a dit que c'était ça les sujets qui intéressaient tellement le monde à 8 heures le matin? Je ne sais pas qui, là. Ça fait que c'est ça. Faut que ça s'appelle des béquilles. On a tous des béquilles. On a tous quelque chose que quand... En humour, d'ailleurs, je vais faire une parenthèse. En humour, c'est très intéressant parce que quand tu fais du stand-up, qui est beaucoup plus exigeant que de faire que de réciter un texte pour un comédien ou bien une chanson pour un chanteur, où ça prend effectivement un talent dans les deux cas que je n'ai pas, mais que tu peux faire toute ta performance, tout ton rendu, mettez les mots que vous voulez, en te fichant un peu du spectateur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, au théâtre, la générale, la répétition et la représentation devant le public, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas rien qui change, alors que quand tu fais du stand-up, tu parles au monde direct. Tu les interpelles live, et puis c'est jamais le même public. Si t'es dans un bar, il y en a un qui est un éclair, l'autre est gazé, l'autre te fait un commentaire. Il y en a qui rient moins, il y en a qui sont gênés au début. T'es obligé de dealer avec ça. C'est beaucoup plus exigeant. Donc, t'as des béquilles dans ce temps-là. Moi, vois-tu, ma béquille, c'était de devenir polémique. C'était de devenir très directif, très conférencier à ce moment-là. Je me durcissais quand je faisais du stand-up qui marchait mal. Là, je me durcissais. T'en as d'autres comme Mike Ward, qui eux autres devenaient plus vulgaires. Quand ils voyaient que c'était plus tough, là, ils sortaient la machine à sac, la machine à joke de cul, etc. Puis, ça fait que ça, on recule dans le temps, là. Mais, alors, ces béquilles-là, ils sont partout. Ils sont plus flagrants dans les métiers plus artistiques, appelons-les. Mais, je veux dire, vous travaillez en informatique, vous avez des béquilles, votre collègue a des béquilles. Souvent, on se réfugie dans le côté de la personnalité qui fait notre affaire, etc. Ça fait que, le fait que Danny Turcotte n'était plus là, moi, je dis que peut-être que ça a enlevé une béquille à Guy qui pouvait des fois se dire, hey, je suis pas seul au combat. À un moment donné, Danny intervient, ou ne serait-ce qu'il est là. Tu sais, ça fait 17 ans qu'il est là, c'est pas rien. Ça fait que, bref, ça a été une très, très bonne émission. Donc, ça illustre un peu le concept des béquilles. Mais ça démontre aussi qu'effectivement, quand tout à coup, tu passes d'une émission enregistrée avec montage devant public à live, pas de public, bien, sur le rendu final, ça fait très peu de différence. Cette émission-là n'est pas moins bonne maintenant, mais ça faisait en sorte que là, il y a eu un dommage collatéral. C'est-à-dire, Danny Turcotte lui a fait « Hey, dans ce contexte-là, moi, je m'excuse, ma job n'est pas du tout la même. » Et il a éminemment raison. Maintenant, quelques commentaires sur l'émission comme telle. De un, finir comme Geneviève Peterson a fait en disant « Je pense que la culture, ça vaut plus qu'un popcorn. » C'est très ironique parce que dans la chaîne de tout ce qu'on consomme à la télé, au théâtre, spectacle d'humour, etc., il y a quatre volets. Qu'il faut bien comprendre, il y a quatre volets. Il y a la création, la production, la diffusion, puis la distribution. Les deux derniers dans l'autre ordre. Ça fait que dans le cas d'hier, pas d'hier, mais de Tout le monde en parle de dimanche, vous avez la fille qui écrit un livre qui s'appelle Geneviève Peterson, duquel a été tiré un scénario qui est devenu un film réalisé par, j'oublie le nom de la réalisatrice, je ne la connaissais pas, ainsi que de l'actrice qui était en arrière, que je ne connais pas non plus. Donc ça, c'est l'aspect production. Donc tu as eu création, après ça, tu as eu production. Après, tu as eu la distribution, c'est-à-dire que ce film-là doit se promener dans les salles. Il y a quelqu'un qu'il faut que s'occupe de ça, comme des canettes de coke. Il faut que ça soit distribué. Ça peut pas... Le producteur, lui, il fait affaire avec un distributeur qui dit... C'est toi qui es en charge de faire passer ça. Et t'as, à la fin de la chaîne alimentaire, ben, des cinémas, puis éventuellement des plateformes ou des stations de télé qui le rachètent, qui diffusent ça un an plus tard, etc. Donc, de la diffusion. C'est-à-dire des yeux de clients qui payent en fin de course. Alors, quand tout à coup, comme Mme Peterson, tu dis que c'est un petit peu, franchement, on vaut plus que du popcorn, ben c'est malheureusement déplacé comme commentaire. Parce que cette fille-là a vu son roman publié et tout ce qui s'appelle édition au Québec, c'est hautement subventionné, tout, sans exception. Après ça, c'est allé à la place où il y a le plus de subventions de tout ce qui se fait en matière art et spectacle, c'est le cinéma. Le cinéma québécois serait inexistant, il n'y aurait aucun film québécois si ce n'était pas qu'il est hautement subventionné. À vrai dire, un film profitable au Québec, ça arrive presque jamais. À ma connaissance, il y a bon cop, bad cop. Tous les autres finissent, peu importe le chiffre d'affaires d'entrée au cinéma, etc., en dessous de ce qu'ils ont coûté. Ça fait que... Donc, tu as tous ces gens-là qui se permettent le petit commentaire de dire « Je pense que la culture vaut plus qu'un popcorn. » Ben, je veux dire, ben, dans l'absolu, je suis absolument d'accord. Mais il reste que si Vincent Guzzo ou autre, ils nous disent « Regardez, moi, mon modèle d'affaires, là, c'est que j'ai pas le choix. » Quand les gens viennent chez nous, là, si je ne peux pas vendre des bonbons et des patentes, moi, j'arrive juste pas. J'ouvre ma salle pour faire un service public. Ce n'est pas mon cas, je suis une entreprise privée. Ça fait que quand c'est les Canadiens de Montréal qui sont déjà hautement profitables avec les droits télé, etc., puis qui nous vendent leur bière 11$, là, on a raison de faire comme... Tu parles d'une affaire, mais encore là, on ne dit pas un mot pourquoi. Parce que ça, on ne cherche pas de n'acheter. Mais eux autres, ils se rajoutent des marges de profit. Tu comprends qu'ils ne sont pas nécessaires. Mais dans le cas du cinéma, pas pantoute. Ça fait que premier commentaire... C'est comme, voilà, tu sais, quand tu reçois des chèques du gouvernement pour lequel, donc, tout le monde contribue, bien, peut-être que c'est juste de dire, écoutez, la réponse de la réalisatrice est un petit peu plus intéressante quand elle disait, bien, une chose à la fois, gars, comme là, on ouvre partiellement, peut-être qu'éventuellement, on va ouvrir plus. Je trouvais que c'était, bien oui, voilà, mais la phrase de Geneviève Peterson de vraiment dire, on vaut plus que du popcorn, c'est très détaché, tu sais, puis en plus, c'est un peu frustrant parce que venant d'elle, qui, elle, c'est des chèques qui viennent d'argent public qui permettent, mais pas elle plus qu'un autre, là, c'est le propre de l'édition et du cinéma québécois. Ça existerait virtuellement à peu près pas. Bon. Ça fait que je fais juste passer le commentaire comme quoi, à un moment donné, il y a une phrase qui dit « Dis-moi comment tu te finances, puis je vais dire comment tu te gères. » Moi, j'ai travaillé à Juste pour rire et chez Spectra. Spectra, c'est le festival de jazz, tous les gros festivals. Puis Juste pour rire, c'était privé, parce qu'en humour, il y avait très peu de crédits d'impôt puis de trucs du genre. Puis en musique, il y en a des tonnes. Ça fait qu'à une place, je n'avais jamais entendu parler, ni même pas entendu parler quand j'ai commencé de l'expression crédit d'impôt. Puis de l'autre bord, on ne me parlait que de ça. C'était comme, OK, oui, on monte un show, crédit d'impôt. J'étais là, on peut-tu penser à vendre des tickets? Mais c'est ça, dis-moi comment tu te finances, je vais te dire comment tu te gères. Après ça... On a eu Cœur de pirate qui est venu parler de la maison de 10 Bravo. Donc, je suis très content. C'est vraiment un mot qui m'est de plus en plus associé. Bravo à tous, en passant. Ça fait que ça, c'est très bon. Elle a repris une boîte existante. Elle a changé le nom, etc., blablabla. Moi, je trouvais juste ça drôle qu'à un moment donné, elle fait partie de la mouvance comme quoi, tiens, elle nous a droppé le « culture du viol », etc. Comme si c'était tout des automatismes. C'est réglé, ça. Culture du viol. C'est très bizarre, cette expression-là, culture du viol, parce que je comprends d'où ça vient. Je comprends qu'il y a un fond de vérité. C'est-à-dire ça explique une mécanique où souvent, puis en dehors des viols, hein, les gars ont tendance à voir une fille qui revendique comme une fille qui chiale. Ça, je peux vous le dire, là, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment vu. J'ai dû le faire sans m'en rendre compte. J'espère que non. Je sais pas trop mon genre, mais mettons, j'aime pas ça, genre pointer du doigt, moi je suis pas de même, là. Mais il reste que quand on fait juste s'attarder à c'est quoi culture du viol, puis qu'on prend les mots pour ce qu'ils veulent dire, bien, si on les inverse, la phrase « il y a une culture du viol au Québec », ça devient « au Québec, le viol est culturel ». Ça voudrait dire, si quelqu'un a à décrire le Québec, il peut dire « ah ben nous autres, on fait du sirop d'érable, on aime les Canadiens de Montréal, puis on viole des filles ». Alors, ça illustre qu'il y a peut-être une exagération là-dedans. Donc, moi, je pense que le concept est 100% vrai, tout à fait valable. Mais dans toutes ces histoires-là de anticolonialisme, puis du racisme systémique, puis en France, là, c'est la grosse affaire d'islamo-gauchisme, je pense qu'il n'y a rien de ça qui est faux. Tout mérite d'être raconté. Ça amène des perspectives différentes. Quand tu es un gars, tu ne connais pas ça. Tu n'es pas habitué à ça. Ça fait que quand tout à coup, des filles te disent « Attends un peu, je vais te parler de mon vécu, moi. » Je suis à l'écoute de ça, tu sais, c'est comme « OK. » Mais c'est que tout à coup, quand ça devient militant, bien, ça a tendance à devenir une espèce, tu sais, de généralité. C'est-à-dire « Voici la société faite comme ça. » Je pense que c'est là qu'il y a un débat intéressant, à savoir dans quel milieu est-ce que c'est plus de même? C'est quoi les profils? Qui est plus appelé à ça, tu sais? Ça fait que ça, c'était plutôt mon observation là, par rapport à elle. Mais en tout cas, je lève mon chapeau pour l'initiative et tout. En plus, manifestement, ce fille-là a beaucoup de talent, donc ça devrait... Je pense qu'il y a des artistes intéressants qui vont sortir de là. Après, on a eu la dame du Alzheimer. Donc, elle a 40 ans, et puis elle a un Alzheimer précoce, comme mon père en est mort. Et puis, elle veut avoir l'aide médicale à mourir. Il y a une pétition qui roule sur change.org que je vais signer parce que moi, mon père est mort de ça, puis je me suis toujours dit que moi, j'irai pas là. Alors, aide médicale à mourir ou pas, moi, je vous le dis, là, j'irai pas là. J'irai pas me rentrer à l'hôpital voir si... Regarde, c'est hors de question, donc je la comprends totalement que c'est extrêmement zéro. C'est une vie qui vaut tellement plus la peine. Puis je comprends le combat aussi, hein, bien entendu. C'est comme, bon, ben là, attends un peu, là, t'es plus en état de dire, OK, je vais mettre fin à mes jours parce que t'as plus ta tête, donc il faut que ça soit décidé avant. C'est que c'est quoi les critères? Tu sais, c'est certain que c'est un bel exemple de zone grise. Je suis quand même... C'est pas les zones grises qu'il faut empêcher de penser l'affaire. C'est pas parce que c'est dur à appliquer qu'il faut dire, bon, on y renonce. Alors, moi, je suis pour ça, puis je trouve ça, écoute, c'est tough. Elle a 3 enfants, tu sais, c'est vraiment... C'est quelque chose. Ça fait que ça rappelle des très mauvais souvenirs. Je vais vous dire, c'est une maladie que je souhaite à personne, mais comme de raison, moi, ça se peut que je l'aille. Et puis, je le répète, je n'aurai pas cette fin de vie-là que mon père a eue. Point barre, je vais m'organiser. Puis tout le monde le sait. Ça, c'est une autre affaire. Après ça, on a vu Laurent Paquin qui a dit quelque chose de très intéressant aussi quand il a défini un peu ce qui se passe, entre autres, mettons, dans les universités, où il disait, là, maintenant, il dit, les offensés, quand ils sont offensés, ben ils décident que ça a force de loi, tu sais. Puis effectivement, le problème, il est tout là. C'est-à-dire que comme il dit très bien, Laurent, moi, je n'ai pas à dire à quelqu'un, tu n'as pas à être offensé de... Ça appartient à tous et chacun. Tout le monde, on a tous des amis, puis surtout dans cette période-là, qui sont bien crinqués de comment le gouvernement gère des affaires, puis d'autres qui s'en foutent, comme moi. Pas qui s'en foutent, en voulant dire qu'ils sont au-dessus d'eux, mais qui... Je m'attarde pas à ce débat-là, comprenez-vous? C'est comme, ben, le gouvernement dit ça, des fois, ils ont raison, des fois, ils ont tort, par définition. Puis moi, c'est pas un sujet de débat. J'ai plein de sujets de débat dans la vie, moi, c'est pas le mien, c'est tout. Ça fait que, voilà. Bref, dans cette définition-là que Laurent Paquin donnait, c'est très intéressant parce que, encore là, Geneviève Peterson répondait un peu à mot couvert, oui, mais toutes les années, les agressions non dénoncées puis le MeToo, tu sais. Ben, il s'est passé deux choses. C'est-à-dire que être offensé, c'est pas une agression physique. Être offensé, c'est ce qu'on pourrait appeler une agression verbale. Comme par exemple les histoires de ah, je veux pas lire tel mot quand j'étais à l'université, blablabla. Ben, c'est parce que là, c'est plus une agression. C'est ça. C'est ça l'affaire. Ça s'appelle être contrarié. Maintenant, quelqu'un qui dit non, je trouve que c'est une agression, etc., ben là, il y a un débat. Comprenez-vous? Là, il y a un débat. Il y a un débat à savoir est-ce que quand t'es noir puis que t'as un historique d'esclavagisme, etc., puis que à quelque part, t'as tout le temps renfreigné, gardé ça un peu secret, mais que quand t'entends certains mots, certaines histoires, etc., ben ça t'agresse. Et là, faut. Donc, en un mot, moi, quand quelqu'un a une revendication, je commence par écouter. Je fais comme, ben écoute, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est intéressant. Maintenant qu'après ça, ça fait force de loi, c'est là que je fais, ben non, désolé. Ça fait que Laurent, c'est intéressant son truc. Moi, j'adhère à ça, c'est-à-dire que les offensés sont pas supposés de finir c'est quoi la norme. Ils ont le droit d'être offensés, puis moi, j'ai le droit de dire, OK, mais je m'en fous. C'est raide, là, mais j'ai le droit. Parce que la liberté d'expression est de deux bords. C'est-à-dire qu'il faut que chacun soit libre d'exprimer quelque chose, puis il faut que je sois libre de pas en faire une prison pour moi. Désolé. Puis ce sera toujours un combat de zone grise. Ça fait que, donc, il y avait ça. Et puis, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ça a été... Mais c'était une très, très bonne émission. Moi, je regarde souvent les invités... la veille ou le soir même, puis dépendamment de la liste, quand je vois que c'est trop promo, tu sais, comme par exemple, la semaine passée, je ne l'ai pas écouté. Parce que là, il y avait la nouvelle série de Véronique Cloutier, le nouveau... Je dis pas qu'il faut pas que ce soit là, mais quand c'est de la promo... D'ailleurs, l'entrevue qui a été de loin la plus banale, c'est l'entrevue du film en début d'émission. Puis l'entrevue à Laurent. Ben, dans les deux cas, il venait pas parce qu'il venait s'expliquer ou il venait à proposer un point de vue particulier. Et d'ailleurs, le bout de loin le plus intéressant de Laurent, c'est quand tout à coup, il s'est mis un peu à pomper sur toutes ces histoires-là, puis les offensés, puis les médias sociaux. Parce qu'il disait... il dit, je me suis pris avec mon masque en photo en face de ma loge, disant, j'étais tout le monde en parle à soir. Puis il dit, là, je vais aller voir tantôt, mais manifestement, je vais avoir plein de monde qui vont dire, t'es un vendu, telle affaire. Puis il disait, j'ai-tu le droit, moi, de dire, moi, je fais ça, c'est ma décision. Moi, je pense vraiment que c'est ça qu'il faut faire. Je suis pas un vendu, puis je suis pas un mouton pour autant. Je réfléchis comme n'importe quoi, puis ma réflexion, c'est que je mets un masque. Il a entièrement raison. C'est point barre. Ça fait que, comprenez-vous, si tout le monde en parle est une émission au tiers, moitié, plug, c'est les bouts qui ne m'intéressent pas. Et je pense que c'est les bouts qui intéressent de moins en moins de monde. Puis, il y a un bout où ce que là, c'est des gens qui font vraiment l'actualité, qui viennent parler à la Mathieu Bock-Côté dans le temps ou autre, et puis qui viennent nous dire un peu c'est quoi leur point de vue, qui viennent le défendre ou whatever. Là, à ce moment-là, on est dans du jus puis du crunchy. Ceci étant dit, il y a un côté qui arrive à l'occasion, à Tout le monde en parle, que j'aime beaucoup, parce que c'est une mission qui est difficile. C'est un côté qu'on pourrait appeler « feel good ». C'est-à-dire que hier, entre autres, de voir toutes ces filles-là dans des milieux hyper différents, écoute, même la fille qui a fait atterrir le petit rover, elle fait partie de l'équipe qui a fait atterrir, tu sais, elle est rendue à NASA, c'est une fille de Joliette. Son père est turc, une dénommée Farah Alibey. Tu sais, tu fais comme, écoute, c'était la meilleure, vous savez comment moi, je suis un porte-parole invisible d'aller à l'école. Je la regardais hier, puis je me disais, au lieu de faire des incitatifs pour dire « Ah, voici, nous incitons les filles à aller en ingénierie. Who cares? Who cares? » D'ailleurs, ça a été démontré. Hein? Dans des pays nordiques, là, ils ont fait des gros incitatifs pour qu'il y ait plus de filles dans les écoles d'informatique, d'ingénierie. Puis au final, ça changeait à peu près rien dans les chiffres. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi l'intérêt de la personne concernée. Là. Je veux dire, il y a encore des filles qui préfèrent être infirmières que camionneurs. Qu'est-ce que je fasse? Ça fait que tant mieux si les portes sont grandes ouvertes puis que c'est incité, moi, bravo. Mais vous ne ferez pas de miracle du jour au lendemain. Là. Il reste qu'il y a des tendances. Là. Sauf qu'une affaire qui donne le goût d'aller à l'école, c'est bien un modèle. C'est quelqu'un qui t'inspire, que tu fais comme « Hey, Colin, OK. » Là, c'est comme « Wow, tu sais. » Ça fait qu'hier, la fille, elle faisait une job de ça, je vais dire pas à peu près, parce qu'elle est souriante à mort, la NASA, elle, comprends-tu? Tu sais, l'expression, moi, je dis souvent, OK, calmez-vous, là, telle personne, elle vole pas dans les airs. Bien, elle vole pas mal dans les airs. Elle vole quasiment jusqu'à la planète Mars. Ça fait que... Mais tout ça pour dire qu'il y avait, dans l'émission d'hier, un bon signal. Tu sais, à travers tous les complotistes, puis les épais partout, puis le bas de gamme, là, tout à coup, tu vois que tu checks ça, puis... Ah, je vous ai pas parlé de Mélanie Joly aussi. Mélanie Joly, évidemment, j'ai un crunch. Un crush, comment on dit ça? Un crush? En tout cas, je la trouve belle à la mort, tu sais. Puis je trouve qu'elle est excellente en entrevue. Alors là, évidemment, ça, c'est un autre point. Ah, oh, la potiche. Ça venait, tu vois, du préjugé que les filles ont, que les gars n'ont pas. Ça, je le concède immédiatement. La belle fille qui arrive et qui dit « je vais vous parler de politique », elle se fait traiter de potiche. Elle est très calme en entrevue, elle a des réponses à toutes, elle est très posée, elle a de l'air très mature. C'est ça les vraies qualités, là, je m'excuse. Que vous ne soyez pas d'accord avec ces programmes, c'est toute autre conversation. Mais en tant que porteuse de ballon, là, la fille qui dit « moi, je vais aller parler de ce qui concerne mon ministère, c'est moi la ministre », Elle est excellente. Son message est, écoute, c'est balancé, c'est droit comme une barre, c'est posé, est au courant de ses affaires, mais bien entendu, tu le vois tout de suite. Tu le vois tout de suite sur Internet, sur Twitter ou autre. On sait bien la langue de bois. De quoi la langue de bois? Je veux dire, à un moment donné, c'est ça l'information. Je veux dire, tu veux qu'elle rentre dans des polémiques, qu'elle commence à dire « Ah, mais en tout cas, ça parle pas assez français, bande de caves. » Non. Je veux dire, elle a un rôle plus effacé que l'inverse. Elle est ministre, tu sais, je veux dire. Ça fait que... Non. Et c'est excellent ce qu'elle a fait hier. Très, très belle sortie. Mais évidemment qu'un réflexe, quasiment macho, qu'on peut dire, c'est de juger sur le fait que « Ah, oh, check-moi le babe. » Parce qu'elle est quasiment trop belle pour la fonction. Non, ça n'existe pas, trop belle pour la fonction. C'est juste que tout à coup, on mélange les deux. Puis moi, mon problème, je le sais, c'est à l'inverse. C'est-à-dire, probablement, je la trouve meilleure parce que je la trouve très belle. Je fais comme, hey, Colin, ça, c'est mon genre. Fait que j'ai peut-être le problème de l'autre bord. Au lieu de dire, check la potiche, j'ai rien à dire, je pense que je la trouve peut-être meilleure. Comprenez-vous? C'est la vie. C'est la vie. On n'est pas des programmes informatiques. On juge de toutes sortes d'affaires, puis si on peut tout se calmer puis se jaser, règle générale, croyez-moi, ça va vraiment mieux. Et hier, j'ai aimé l'émission, vraiment. Moins plug, plus de discours, chapeau Guy. Et puis voilà. Donc, sur ce, ben, on se parle demain. Salut!